Chapitre 5. Les lambeaux de paradis. L'enfer existe, et je sais maintenant que son horreur repose en ceci, qu'il n'est fait que de lambeaux de paradis. Alec Covin.
Je te rends ton outil, tu pourras le restituer à son propriétaire,
annonça Milo en tendant à Carole le pied de biche en acier qu'elle lui avait prêté. Son propriétaire, c'est l'État de Californie, répondit la jeune officière de police, en rangeant le levier métallique dans le coffre de sa voiture. Santa Monica, 7h du soir.
Merci d'être venu me chercher. Où est passée ta voiture?
C'est Tom qui me l'a empruntée.
Tom n'a plus de permis.
Disons qu'il s'est emporté contre moi, reconnut Milo la tête basse.
Tu lui as avoué la vérité? Demanda-t-elle soucieuse.
Oui. Mais ça ne l'a pas incité à se remettre au travail.
Je te l'avais bien dit.
Elle ferma son véhicule et ils descendirent côte à côte le long du pont suspendu qui menait à la plage.
Mais enfin, s'énerva Milo, tu ne trouves pas ça insensé, toi? Se laisser détruire par une histoire d'amour?
Elle le regarda avec un air triste.
C'est peut-être insensé, mais ça se produit tous les jours. Moi, je trouve ça émouvant et terriblement humain.
Il haussa les épaules et lui laissa prendre un peu d'avance. Avec sa grande taille, sa peau mate, ses cheveux ailes de corbeau et ses yeux clairs comme de l'eau, Carole Alvarez avait des allures de princesse Maya. Originaire d'El Salvador, elle était arrivée aux États-Unis à l'âge de 9 ans. Milo et Tom la connaissaient depuis l'enfance. Leur famille, ou ceux qui l'en restaient, habitaient le même immeuble délabré de MacArthur Park, le Spanish Harlem de Los Angeles, lieu de prédilection des accros à l'héro et des règlements de compte à coups d'armes automatiques. Ils avaient tous les trois partagé la même détresse, le même décor de bâtiments insalubres, de trottoirs jonchés de détritus et de magasins aux rideaux de fer défoncés et tagués.
« On s'assoit un moment », proposa-t-elle en dépliant une serviette.
Milo la rejoignit sur le sable blanc. Les vaguelettes léchaient le rivage, projetant une écume argentée qui mordait les pieds nus des promeneurs. Bondée en période estivale, la plage était beaucoup plus calme en ce début de soirée d'automne. Inamovible, la fameuse jetée de bois de Santa Monica accueillait depuis plus d'un siècle les Angelenos qui, après leur journée de travail, venaient trouver ici une échappatoire à leur stress et l'agitation de Los Angeles. Carole retroussa les manches de son chemisier, enleva ses chaussures, ferma les yeux et offrit son visage au vent et au soleil de l'été indien. Milo la regarda avec une tendresse douloureuse. Comme lui, Carole n'avait pas été épargnée par la vie. Elle avait à peine 15 ans lorsque son beau-père s'était fait tuer d'une balle dans la tête lors du braquage de son épicerie pendant les funestes émeutes qui avaient enflammé les quartiers pauvres de la ville en 1992. Après le drame, elle avait joué à cache-cache avec les services sociaux pour éviter d'être placée dans une famille d'accueil, préférant squatter chez Black Mama, une ancienne prostituée, sosie de Tina Turner, qui avait dépucelé la moitié des mâles de MacArthur Park. Tant bien que mal, elle avait continué ses études tout en travaillant à côté, serveuse chez Pizza Hut, vendeuse dans des bijouteries cheap, hôtesse d'accueil dans des congrès de seconde zone. Elle avait surtout réussi du premier coup son concours d'entrée à l'école de police, intégrant le LAPD le jour de ses 22 ans et gravissant les premiers échelons à une vitesse stupéfiante. D'abord officer, puis détective, jusqu'à étrenner depuis quelques jours le grade de sergeant.
Tu as eu Tom au bout du fil récemment ?
Je lui envoie 2 messages par jour, répondit Carole en ouvrant les yeux. Mais je n'obtiens au mieux que des réponses laconiques. Elle regarda Milo durement.
À présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?
D'abord, l'empêcher de se foutre en l'air, répondit-il en sortant de ses poches les tubes de somnifères et d'anxiolytiques qu'il avait subtilisés.
Tu as conscience que tout ce qui se passe est en partie ta faute ? C'est ma faute si Aurore l'a quitté ?
Se défendit-il.
Tu sais très bien à quoi je fais allusion. C'est ma faute s'il y a eu une crise financière mondiale ? C'est ma faute si Madoff a escroqué 50 milliards de dollars ? Et puis, réponds-moi honnêtement. Cette fille, tu en pensais quoi ?
Carole haussa les épaules dans un geste d'impuissance.
J'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle n'était pas faite pour lui.
Au loin, sur la jetée, la fête foraine battait son plein. Les cris des enfants se mélangeaient aux odeurs de barbapapa et de pommes d'amour. Avec sa grande roue et ses montagnes russes, le parc d'attractions était directement bâti sur l'eau, face à la petite île de Santa Catalina que l'on apercevait à travers la brume légère. Milo soupira. Je crains que personne ne connaisse jamais la fin de la trilogie des anges.
Moi, je la connais, répondit tranquillement Carole.
Tu connais la fin de l'histoire ?
Tom me l'a raconté.
Vraiment ? Quand ?
Son regard se troubla.
Il y a longtemps, répondit-elle vaguement.
Milo fronça les sourcils. À la surprise, se mêla une certaine déception. Ils pensaient tous avoir de la vie de Carole. Ils se voyaient presque tous les jours. Elle était sa meilleure amie, sa seule vraie famille, et, bien qu'il refusât de l'admettre, la seule femme pour qui il éprouvait des sentiments.
L'esprit ailleurs, Milo regarda vers la plage. Comme dans les séries télé, quelques âmes courageuses affrontaient les vagues sur les planches de surf, tandis que des maîtres nageurs au corps de rêve surveillaient la mer depuis leur cahute en bois. Mais Milo les regardait sans les voir, car ils n'avaient Dieu que pour Carole. Ils étaient unis par un attachement très fort, ancré dans l'enfance, matiné de pudeur et de respect. Même s'ils n'avaient jamais osé exprimer ses sentiments, ils tenaient à Carole comme à la prunelle de ses yeux et s'inquiétaient pour elle à cause des risques liés à son métier. Elle l'ignorait, mais certains soirs, il était arrivé à Milo de prendre sa voiture pour aller passer la nuit sur le parking de son immeuble, juste parce que cela le rassurait d'être près d'elle. La vérité, c'est que, plus que tout au monde, il avait peur de la perdre, même s'il ne savait pas très bien lui-même quelle réalité recouvrait ce dernier verbe, crainte qu'elle ne passe sous un train, qu'elle ne se prenne une balle perdue en arrêtant un junkie, ou plus vraisemblablement, de se résigner à la voir s'épanouir dans les bras d'un autre homme. Carole chaussa ses lunettes de soleil et dégrafa un bouton supplémentaire de son corsage. Malgré la chaleur, Milo résista à l'envie de relever les manches de sa chemise. Le haut de ses bras était tatoué de signes kabbalistiques, témoin indélébile de son ancienne appartenance au fameux MS-13, appelé aussi Mara Salvatrucha, un gang extrêmement violent régnant sur les blocs de MacArthur Park, qu'il avait intégré par désœuvrement à l'âge de 12 ans. Né d'une mère irlandaise et d'un père mexicain, Milo était considéré comme un « Chicano » par les membres de ce clan créé par des jeunes immigrants salvadoriens qui l'avaient soumis à l'épreuve initiatique du corton, un bizutage consistant en un viol collectif pour les filles et un tabassage en règle d'une durée de 13 minutes pour les garçons. Un acte absurde censé témoigner de votre courage, de votre résistance et de votre loyauté, mais qui se terminait parfois dans le sang. Malgré son jeune âge, Milo y avait pourtant survécu, et pendant plus de 2 ans, il avait volé des voitures, dealé du crack, racketté des commerçants et revendu des armes à feu pour le compte de la Mara. À 15 ans, il était devenu une sorte de bête féroce, dont la vie n'était plus régulée que par la violence et la peur. Piégé dans cette spirale, n'envisageant son avenir que par la mort ou la prison, il n'avait dû son salut qu'à l'intelligence de Tom et à l'affection de Carole qui avait réussi à le sortir de cet enfer, faisant mentir le principe qui voulait que l'on ne quittât pas la Mara sous peine de mort. Le soleil couchant dardait ses dernières flèches. Milo cligna des yeux plusieurs fois, tout autant pour se protéger de la réverbération que pour chasser les souvenirs et les douleurs du passé.
« Je t'invite à manger des fruits de mer ?» proposa-t-il en se levant d'un bond.
« Je crois qu'avec ce qu'il te reste sur ton compte en banque, c'est plutôt moi qui vais devoir t'inviter, » remarqua Carole.
« Ce sera un moyen de fêter ta promotion, » dit-il en lui tendant la main pour l'aider à se remettre debout.
Ils quittèrent la plage sans entrain et firent quelques mètres à pied le long de la piste cyclable qui reliait Venice Beach à Santa Monica. Puis ils s'engagèrent dans Third Street Promenade, une large rue pavée bordée de palmiers qui abritait plusieurs galeries d'art et de restaurants à la mode. Ils s'installèrent à la terrasse de la brasserie Anisette, dont la carte, écrite en français, contenait des plats aux noms aussi exotiques que frisés aux lardons, entrecôtes aux échalotes ou pommes dauphinoises. Milo insista pour goûter un apéritif appelé pastis, qu'on lui servit à la mode californienne dans un grand verre rempli de glaçons. Malgré les jongleurs, les musiciens et les cracheurs de feu qui animaient la rue, le dîner fut morne. Carole était triste. Milo, torturé et accablé par la culpabilité. La conversation tourna autour de Tom et d'Aurore.
« Est-ce que tu sais pourquoi il écrit ?» demanda soudain Milo au milieu du repas, en se rendant compte qu'il ignorait un point essentiel de la psychologie de son ami.
« Comment ça ?»«
Je sais que Tom a toujours aimé lire, mais écrire, c'est autre chose. » Et à l'adolescence, tu le connaissais mieux que moi. Qu'est-ce qui l'a poussé, à cette époque, à inventer sa première histoire ?
Je l'ignore, s'empressa de répondre Carole.
Mais sur ce dernier point, elle mentait. Malibu, 8 heures du soir. Après avoir erré dans la ville, Je garai la Bugatti menacée de saisie devant une maison dont je venais d'apprendre qu'elle ne m'appartenait plus. Quelques heures plus tôt, j'étais au fond du trou, mais à la tête d'une fortune de 10 millions de dollars. À présent, j'étais juste au fond du trou. Brisé, essoufflé sans même avoir couru, je me laissais tomber au fond du canapé, les yeux perdus dans l'enchevêtrement des poutres qui soutenaient la pente douce du plafond. J'avais mal à la tête, le dos en compote, les mains moites et l'estomac noué. Des palpitations m'oppressaient et soulevaient ma poitrine. À l'intérieur, j'étais vide, consumé par une brûlure qui avait fini par avoir ma peau. Pendant des années, j'avais passé mes nuits à écrire, y mettant toutes mes émotions et mon énergie. Puis j'avais enchaîné les conférences et les séances de dédicaces aux quatre coins du monde. J'avais créé un organisme de charité pour permettre aux enfants de mon ancien quartier de faire des études artistiques. Et lors de quelques concerts, j'avais même joué de la batterie avec mes idoles, les grands écrivains du groupe de rock caritatif, les Rock Bottom Remainders. Mais aujourd'hui, j'avais perdu le goût de tout. Des gens, des livres, de la musique, et même des rayons du soleil qui se couchaient sur l'océan. Je me fis violence pour me lever et sortis m'accouder quelques instants à la rambarde de la terrasse. Plus bas sur la plage, vestige de la période Beach Boys, une vieille Chrysler jaune avec boiserie vernie arborait fièrement sur sa vitre arrière la devise de la ville. Malibu, where the mountain meets the sea, là où la montagne rejoint la mer. Je fixais jusqu'à l'aveuglement le liseré flamboyant qui effleurait la ligne d'horizon et illuminait le ciel avant d'être emporté par les vagues. Ce spectacle qui m'avait jadis tant fasciné n'évoquait plus en moi aucun émerveillement. Je ne ressentais plus rien, comme si mon stock d'émotions était épuisé. Une seule chose aurait pu me sauver. Retrouver Aurore, son corps de liane, sa peau de marbre, ses yeux d'argent et son odeur de sable. Mais je savais que ça n'arriverait pas. Je savais que j'avais perdu le combat et qu'à l'issue de cette bataille, il ne me restait plus que l'envie de me brûler les neurones à coups de cristal net ou de n'importe quelle autre saloperie sur laquelle je pourrais mettre la main. Il fallait que je dorme. De retour dans le salon, je cherchais mes médicaments avec nervosité. Mais je devinais que Milo les avait fait disparaître. Je courus dans la cuisine fouiller dans les sacs poubelles. Rien. Pris de panique, je me précipitai à l'étage, ouvris tous les placards pour finir par mettre la main sur mon sac de voyage. Coincé dans une petite poche, une boîte entamée de somnifères et quelques cachets d'anxiolytiques attendaient là depuis mon dernier voyage promotionnel à Dubaï pour une séance de dédicace dans une grande librairie du Mall of the Emirates. Presque malgré moi, je fis tomber toutes les gélules dans ma main et je restai un moment à regarder la dizaine de comprimés blancs et bleus qui semblaient me narguer. Même pas cap. Je n'avais jamais été aussi proche du vide. Dans ma tête, des images terrifiantes s'entrechoquaient. Mon corps au bout d'une corde, le robinet de gaz dans ma bouche, le canon d'un revolver contre ma tempe. Tôt ou tard, ma vie finirait sans doute comme ça. Au fond de moi, ne l'avais-je pas toujours su? Même pas cap. J'avalai la poignée de pilules comme une échappatoire. J'eus du mal à déglutir, mais une gorgée d'eau minérale fit passer le tout. Je me traînai alors jusqu'à ma chambre et m'écroulai sur le lit. L'espace était vide et froid, bordé par un immense mur de panneaux de verre luminescents couleur turquoise, suffisamment transparent pour laisser passer la lumière du jour. Je me recroquevillai sur mon matelas, terrassé par mes pensées morbides. Accrochés au mur blanc, les amants de Marc Chagall me regardaient avec compassion, comme s'ils regrettaient de ne pas pouvoir alléger mes souffrances. Avant même l'acquisition de ma maison, qui n'était plus ma maison, ou celle de la bague d'Aurore, qui n'était plus mon Aurore, l'achat du tableau du peintre russe avait été ma première folie. Sobrement intitulé « Lovers in Blue », la toile de Chagall datait de 1914. J'avais eu le coup de foudre pour cette peinture qui représentait un couple enlacé, uni dans un amour mystérieux, sincère et apaisé. Elle symbolisait pour moi la guérison de deux êtres meurtris, cousus l'un à l'autre pour ne plus partager qu'une seule cicatrice. Alors que je tombais doucement dans un état profond de somnolence, j'eus l'impression de me débrancher progressivement des douleurs du monde. Mon corps disparaissait, ma conscience m'abandonnait, la vie me quittait.